Bonjour les petites oreilles et bienvenue dans ce nouveau cycle d'Oyé qui va vous parler de nature. Au fil de 4 épisodes, nous allons donc recevoir différents invités et le dernier épisode bonus vous permettra d'écouter Noémie qui est la voix du podcast vous raconter son travail de médiatrice de la nature. Une fois n'est pas coutume, dans ce nouveau cycle d'Oyé, nous n'avons pas enregistrer les épisodes avec un enfant qui posait ses questions à un adulte expert, mais Noémie a travaillé avec des enfants qui ont posé des questions et c'est Sidonie qui nous a prêté sa voix pour lire les questions des auditeurs et auditrices. Sidonie, avec Noémie, on te remercie chaleureusement d'avoir donné de ton temps pour faire cela. Merci beaucoup. Si tu as envie, comme toutes les autres petites oreilles, de poser tes questions à Oyé et de rester en contact avec nous, eh bien, il suffit d'aller sur oyelepodcast.fr. Un nouvel onglet vient d'apparaître. Il te permettra d'enregistrer ton adresse mail pour recevoir nos newsletters. À très vite et bonne écoute. Bonjour les petites oreilles, bienvenue dans Oyé, le podcast des 7-12 ans. Pour ce nouveau cycle, nous partons au cœur de la nature, pour échanger avec celles et ceux qui prennent soin de notre environnement, qui en relèvent les changements ou encore qui nous le font découvrir plus avant. Dans ce premier épisode, nous allons survoler les massifs montagneux français avec Daniel Tonon, bénévole à la Ligue de protection des oiseaux, la LPO de l'Isère. Bonjour Daniel.
Bonjour Noémie.
Avant de révéler aux petites oreilles le nom de l'oiseau qui nous intéresse aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la LPO et ce que ça implique d'y être bénévole ?
Donc la LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, qui a fêté ses 100 ans. Hein, donc c'est une association qui commence à avoir déjà un certain âge, qui au départ effectivement était dédiée à la protection des oiseaux et maintenant est plus généraliste et se préoccupe de la protection de la biodiversité, donc des espèces et de leur milieu. Alors être bénévole à LPO, ça peut prendre beaucoup de formes, ça peut être des gens qui font des chantiers, des gens qui tiennent des stands pour expliquer au public, des gens qui vont faire des observations dans la nature, ou qui vont faire des suivis sur des populations d'oiseaux par exemple, ou des suivis de populations d'amphibiens, des grenouilles, des choses comme ça. Donc la panoplie est très vaste, et puis les gens peuvent y consacrer quelques heures à tout le temps qu'ils veulent.
Merci Daniel. Je précise qu'il y a des LPO dans chaque département de France, avec des animations régulières, gratuites et ouvertes à tous. Celui qui nous intéresse maintenant a une envergure de 3 mètres, peut peser jusqu'à 7 kg et mesure entre 1,10 m et 1,50 m, soit la taille approximative d'un auditeur d'Oyé. Ce grand vautour est appelé casseur d'os ou nettoyeur des alpages. Il s'agit, Daniel,
du gypaète barbu.
Alors aujourd'hui, je vous laisse avec les questions des auditeurs d'Oyé.
C'est drôle, gypaète barbu. Pourquoi on l'appelle comme ça ?
Alors, gypaète, je ne sais pas. Mais par contre, barbu, c'est beaucoup plus facile. C'est qu'en fait, les adultes, on les voit bien en vol, hein, ils ont comme des moustaches. Hein, donc, ça pend en dessous du bec. Et donc, en vol, on voit très bien qu'ils ont un petit triangle qui fait une petite barbichette sous leur menton.
De quoi se nourrit-il ?
Alors, le gypaète barbu, faut savoir que c'est un des 4 vautours hein, qui existent en France. Et les vautours, ils se nourrissent d'animaux morts. Et en fait, chaque vautour est plus ou moins spécialisé. Donc, il y a des vautours qui vont aller manger les animaux morts tels qu'ils les trouvent. Et le gypaète barbu, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive en dernier et il va manger les os, les tendons, tout ce que les autres ont laissé. Donc c'est vraiment celui qui vient finir le nettoyage une fois que ses confrères sont passés. Et vraiment, sa spécialité, c'est manger les os. Quoi.
D'où son nom, donc, casseur d'os ou nettoyeur des alpages. L'alpage, c'est les étendues d'herbe dans les montagnes.
Où est-ce qu'il vit ?
Alors, le gypaète barbu, il vit en montagne. C'est un oiseau de montagne, hein, déjà. Et donc, on va le retrouver en Asie, donc dans les grandes montagnes d'Asie. C'est là où il y en a le plus, en fait. Hein.
L'Himalaya ?
et puis tout l'Afghanistan, etc. Alors j'imagine que vous avez vu des reportages, on en voit régulièrement dans les reportages dans l'Himalaya, c'est l'oiseau emblématique des montagnes partout. En Europe, il est présent sur les Alpes, les Pyrénées et la Corse. C'est à peu près tout. Et donc en France, on va le retrouver dans la partie des Alpes, un petit peu dans les Pyrénées et dans la Corse.
Est-ce qu'il a besoin d'une altitude particulière pour vivre ?
Alors il niche entre 600 et 2000 mètres à peu près. Oui, donc il a besoin de montagnes sérieuses. Le massif central, ça ne va pas trop lui plaire.
Est-ce qu'il fait partie des espèces menacées ?
Alors au niveau mondial, non, parce que comme je l'ai dit, il y a une bonne population qui se tient bien en Asie. Par contre, en Europe, c'est un oiseau qui avait quasiment disparu. Il en restait au milieu du XXe siècle, il n'en restait plus dans les Alpes. Il en restait peut-être deux en Corse et quelques dizaines dans les Pyrénées. Donc c'est un oiseau qui a eu vraiment une période très difficile au XXe siècle et qui depuis remonte tout doucement grâce à des programmes de réintroduction. Il est protégé et il y a des programmes de réintroduction. En France, comme il est encore très rare, il est considéré comme en danger.
Alors pour les petites oreilles, le XXe siècle, c'est un moment, une période de l'histoire où les espèces sauvages ont été extrêmement chassées. Et donc on a beaucoup d'espèces animales qui ont été en déclin à partir de cette époque-là. Aujourd'hui, on a de fait beaucoup de systèmes de protection des espèces animales qui nous permettent de retrouver des animaux qui avaient disparu ou qui étaient en grave danger et qui reviennent dans nos massifs d'abord, dans les montagnes et puis plus largement partout en plaine. Comme par exemple le loup, grande espèce qui est revenue alors naturellement depuis l'Italie. On a une campagne aussi de réintroduction du lynx dans le Jura qui débute dans les années 90. Donc les grands rapaces du type voilà gypaète. J'imagine qu'en mer, alors je suis moins connue, je suis moins experte, mais il y a certainement des espèces marines également qui sont dans le même état.
Et une grande réussite, c'est le bouquetin qui était à peu près éteint et qui maintenant se retrouve facilement visible.
Alors, est-ce que le gypaète barbu est un voyageur, un migrateur ?
Alors, le gypaète barbu n'est pas un migrateur. Hein. Une fois qu'il a décidé de nicher un endroit, il va y rester. Donc, les couples vont rester au même endroit jusqu'à la mort d'un des partenaires. Donc. Par contre, quand il est jeune, il voyage beaucoup. Donc, entre un an et 6-7 ans, c'est un grand voyageur. Donc, il y a un gypaète qui était en Angleterre. Il est parti des Alpes, il a traversé toute la France, il est allé faire un tour en Angleterre. Il y en a un qui est été malheureusement tué par une éolienne aux Pays-Bas, donc en Hollande. Donc on voit les gypaètes, ils circulent beaucoup quand ils sont jeunes, et puis à un moment ils s'installent, et là ils bougent plus.
On connaît leur trajet grâce aux bagues qui sont posées par des scientifiques, peut-être par des bénévoles également ?
Alors on connaît leur trajet de plusieurs façons, il y en a certains qui sont équipés avec des balises GPS. Donc, comme c'est des très gros oiseaux, on les voit presque pas. Une balise et GPS, c'est quelques centimètres de long, donc ils la portent sur le dos. Donc, il y a quelques gypaètes qui sont suivis, et c'est comme ça qu'on a su, par exemple, pour celui qui était en Hollande, hein, il était suivi par GPS. Les bagues, le problème, c'est que c'est des oiseaux qui sont trop loin pour qu'on voit les bagues. Ce qui est fait, c'est qu'il y a des colorations sur les ailes, en fait. Donc, comme ils volent, à leur naissance, on décolore avec l'eau de Javel ou quelque chose comme ça, hein, le bout des plumes, et comme ça ils portent des marquages aux ailes, et donc quand on les voit voler de très, même très haut, on voit il y a deux plumes blanches à l'aile gauche et une plume blanche à la queue, et ça va être le gypaète, je sais pas comment il s'appelle, un certain nombre de gypaètes sont marqués comme ça, et c'est comme ça qu'on les suit en fait.
Fascinant. Moi, je me permets de rajouter une dernière question. Comment avez-vous organisé le comptage et qu'est-ce que c'est, en fait, ce comptage ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gypaète a été réintroduit dans les Alpes. Donc, c'est un gros effort pour mettre des nouveaux couples pour qu'ils s'installent, qu'ils se reproduisent. Et donc, il y a un gros effort qui est fait pour suivre, pour voir où ils s'installent et est-ce qu'ils sont dans des bonnes conditions pour pouvoir nicher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérangement, hein. Il n'y a pas des parapentes, il n'y a pas de gens qui viennent les déranger. Donc il y a un premier suivi qui est fait, qui est en fait de vérifier où ils nichent. Et donc chaque nid est surveillé en fait, hein, dans les Alpes. De fait, chaque nid est surveillé plus ou moins toute l'année pour voir si tout se passe bien. Et puis il y a un comptage qui est effectué au mois d'octobre, hein, chaque année, pour voir si en dehors des nids qui sont connus, il n'y en a pas qui viendraient s'installer. Hein, comme je vous l'ai dit, ils se dispersent beaucoup. Et donc il y a début octobre chaque année des gens qui vont se mettre à peu près partout dans les Alpes, hein, donc depuis la Méditerranée jusqu'à l'Autriche et la Slovénie. Et le même jour, note tous les gypaètes qu'ils voient, ce qui permet d'avoir une photo de tous les gypaètes qui sont présents dans les Alpes. Et donc l'organisation, ça consiste à trouver des bénévoles pour aller sur les différents points et recueillir leur comptage. Alors malheureusement, cette année, on n'a pas eu de chance. Il y a eu des nuages et de la pluie, ce qui fait qu'on n'en a pratiquement pas vu. Mais sinon, les années où il fait beau, on arrive même à repérer, hein, puisque je vous dis, certains étaient marqués, on arrive même à le suivre d'un poste à l'autre quand il fait son tour.
C'est donc une opération coordonnée à l'échelle européenne.
C'est à l'échelle européenne. Donc il y a le comptage, au début c'était les Alpes, maintenant il y a aussi les Pyrénées, je crois, qui font le comptage, parce que bon, il y a deux populations qui ils passent pas en un jour de l'un à l'autre quand même, mais il commence à y avoir quelques passages. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir suivre toute la population et de savoir à partir de quel moment on pense qu'elle va être suffisamment dynamique et suffisamment forte pour ne pas avoir besoin d'aide pour se reproduire, en fait.
Merci Daniel pour ces réponses précises qui nous permettent d'en apprendre plus sur ce rapace si particulier. Alors que nous enregistrons ce cycle d'épisodes d'Oyé sur la nature, un événement autour de la gastronomie se déroule en France. J'ai nommé
la semaine du goût.
À Oyé, on est des gourmands et on voulait pas rater ça. Nous proposons donc à chacun de nos invités un petit Kimgou en lien avec le thème de leur épisode. Daniel, êtes-vous prêt? Fermez les yeux, je vous donne un aliment. Vous devez deviner de quoi il s'agit. En l'occurrence, vous pouvez prendre dans vos doigts et commencer par sentir.
Yep. L'odorat, c'est pas mon fort.
Ah, mince.
Mais... Je peux goûter?
Ouais, vous pouvez goûter. Ça a poussé dans mon jardin à 1500 mètres d'altitude.
Je dirais de la sarriette.
Pas loin.
Ah.
C'est du serpolet.
Du serpolet, oui. Oui, serpolet. Mais j'ai pas l'habitude de goûter le serpolet.
C'est donc, comme ça, ouais.
Je me suis dit, oui, la feuille, la texture ressemblait pas à la... En fait, on le met souvent en accompagnement sur les plats, en fait.
Dans les sauces tomates de l'été. Oui. Alors, je vous ai proposé du serpolet, puisque c'est un thym des montagnes dont raffolent les chamois en hiver. Quel est le lien avec notre gypaète barbu? Eh bien, le gypaète barbu mange les os et tendons des grands ongulés de la montagne, donc comme le chamois. Je vous présente ainsi un petit bout de la chaîne alimentaire de notre gypaète barbu. Le serpolet est mangé par le chamois, mangé à son tour par le gypaète barbu. Pour terminer cet épisode, je voudrais vous présenter un audiolivre s'appelant « L'incroyable histoire de Jipa ». Partez à la découverte des aventures d'un vieux gypaète avec Marmimotte, une grand-mère marmotte un peu conteuse. Un livre pour les 5-10 ans avec un CD qui vous raconte l'histoire. Dans le livre, vous retrouverez des dessins présentant l'histoire et des parties plus documentaires. Vous en apprendrez plus sur les gypaètes barbus et leur conservation. Un ouvrage édité par le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Ce livre reprend tout ce qu'on vient de se dire et bien plus, un coup de cœur Oyé.
Oyé, le podcast des 5 ans.
Voilà les petites oreilles, j'espère que cet épisode coproduit par la Casemate CCSTI de Grenoble, réalisé et monté par Émilie Vadel, vous aura plu. Si vous aimez les oiseaux, n'hésitez pas à vous rapprocher de la LPO de votre département. En attendant les prochains épisodes, vous pouvez mettre des cœurs et poster des commentaires sur Apple Podcasts ou faire un tour sur notre site oyerlepodcast.fr. À très vite les petites oreilles.